Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
La voix des adoptés.
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
Je suis un enfant, maintenant un grand adulte adopté qui vient de Corée du Sud. Moi, je suis né d'une union hors mariage d'un père qui était déjà marié avec deux enfants et d'une fille mère. Donc, toutes ces questions-là m'interrogent beaucoup par rapport à la famille adoptante, les parents. Quelle plus-value ça leur donne dans le statut, le fait d'avoir un enfant adopté. Parce qu'il y a en même temps la question de l'acte d'amour, d'altruisme, mais en même temps, il y a quelque chose qui peut être passablement égoïste.
Je suis moi-même maman adoptante de deux enfants, de deux jeunes filles maintenant, une de 18 ans et une de 15 ans. J'ai été très surprise du témoignage d'une jeune maman qui attend d'aller chercher son enfant en Thaïlande. Je suis très surprise de l'entendre avoir tellement peu d'informations sur le pays d'origine de son futur enfant. Là, il y a quelque chose qui, moi, en tant que maman, me gêne. C'est important de rester dans la continuité, d'une certaine manière, de leurs origines. Nos deux filles viennent du Tchad. Nous avons travaillé au Tchad pendant une année. Nous avons un intérêt et un amour pour ce pays qui se manifeste concrètement par l'arrivée de nos filles. Et je trouve ça assez important.
Bonjour, Michel, papa d'une petite Saya depuis un an, petite Thaïlandaise que nous avons adoptée à l'âge de 6 ans. Déjà, quel combat pour aboutir à une adoption. Chaque adoption est différente, avec sa particularité. Et si vous êtes prêt à essayer de comprendre qu'il y a une normalité adoptive, mais que chaque adoption est différente, eh ben, vous avez déjà fait une grande démarche pour adopter un enfant. C'est pas tout simple.
Moi, j'ai été aussi adoptée. J'ai 54 ans d'adoption. C'est d'autres émotions. Je suis même grand-maman et je partage différemment les choses à l'adoption. Moi, je suis arrivée à 6 ans et c'était un long parcours aussi. Je viens de l'Inde. J'ai été adoptée en Valais. Et je trouve que ce témoignage qu'ils ont apporté à Amanda, parce que je ressens la même chose, magnifique.
Bonjour, je suis une maman adoptive de deux petites filles qui sont arrivées de Colombie. Et j'ai été très touchée par le témoignage d'hier. Ça nous a rappelé les belles années d'enfance, d'arrivée, toute la famille à construire. Mais je voulais juste dire à ce papa qui dit que c'est du grand n'importe quoi de dire que les enfants sont cassés, ceux qui arrivent plus grands. Et je voulais juste lui dire que, voilà, avec l'adolescence qui passe par là, on se rend compte qu'effectivement, la fracture de l'abandon, elle est grande, immense, et que même l'amour, quelquefois, ne suffit pas pour aider nos enfants. Mais à part ça, on avance dans la vie comme on peut. Il faut être très attentif à ça, cette fracture de l'abandon qui est là à vie. Il faut juste faire en sorte que cette cicatrice soit jolie.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour vos messages en réaction au reportage de Jonas Paul diffusé toute cette semaine dans Vacarme. Adopter un enfant en Thaïlande, en Colombie ou en Haïti est devenu un acte rare aujourd'hui en Suisse. Un acte qui convoque de nombreux enjeux émotionnels, politiques ou culturels. Pourquoi l'adoption est-elle en chute libre depuis les années 80? Comment prend-on en compte aujourd'hui la parole des adoptés dont certains se battent pour retrouver leurs origines? Comment accompagne-t-on les parents adoptants qui ont la lourde tâche de rendre jolie la cicatrice de l'abandon, comme l'a dit notre auditrice? Voilà quelques-unes des questions que nous aborderons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Joël Schickel.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale au département fédéral de justice et police. Et à vos côtés, Macarena Facio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste, directrice d'Espace A, une association qui soutient entre autres les personnes concernées par l'adoption, par l'accueil familial et par les recherches d'origine. Une réaction peut-être d'abord aux messages qu'on vient d'entendre qui ont été laissés sur notre répondeur.
Alors, par rapport à l'auditrice qui fait cette remarque sur la candidate à l'adoption qui va aller chercher un enfant en Thaïlande, par rapport au manque peut-être d'intérêt sur la Thaïlande elle-même, c'est vrai que lors des ateliers de préparation, on parle de se préparer, de se renseigner pour essayer de comprendre l'histoire de l'enfant, même si son histoire, bien sûr, va s'inscrire après dans l'histoire de sa nouvelle famille. On estime qu'il est important quand même de trouver un juste milieu entre sa culture d'origine et sa nouvelle culture, et surtout quelques personnes de référence auxquelles l'enfant pourra se référer après pour pas se sentir tout seul dans sa nouvelle vie. Et bien sûr, lui proposer après, s'il le souhaite, plus d'accès à sa culture d'origine, sans toutefois transformer sa maison en pagode ou en maison colombienne ou inscrire l'enfant à des cours d'espagnol. Par ailleurs, nos psychologues me faisaient le commentaire tout à l'heure que, en fait, les cours d'espagnol pour les enfants originaires d'Amérique latine, la plupart du temps, ça marche pas. Donc, peut-être sans arriver à cet extrême-là, proposer, se renseigner sur la culture de l'enfant, avoir un lien avec le pays d'origine.
Joël Chiquel, qu'est-ce qui vous a marqué dans les messages qu'on a entendus?
Un monsieur parle du combat du point de vue des parents adoptifs, qu'est l'adoption internationale. Et c'est vrai, c'est un parcours compliqué, c'est une procédure qui s'inscrit dans un cadre légal assez strict. On a, en tant que pays d'accueil, une responsabilité primairement envers l'enfant et aussi envers les autorités du pays d'origine. On a un cadre dont on parlera peut-être, qui est la Convention de la Haye. Effectivement, ça nous donne du coup des obligations à respecter pour être sûr qu'on prépare au mieux. Alors ça va de nouveau aussi dans cette thématique de la préparation. Et d'ailleurs, ce n'est pas une obligation dans la convention, mais une chose qu'on fait en Suisse, c'est que quand un couple ou une personne décide de déposer une demande d'adoption, elle ne peut le faire que pour un pays d'origine à la fois. Donc on ne peut pas juste être candidat et puis après l'enfant peut venir de n'importe où. On les force en fait à choisir un pays pour justement également pouvoir se préparer dans l'optique de ce pays particulier.
Je vous propose qu'on écoute sans plus attendre le premier extrait des reportages diffusés cette semaine dans Vacarme. Nous sommes aux côtés de Sarah, qui est née et a grandi en Colombie jusqu'à ses 7 ans.
Tu vas passer à l'eau?
T'as une échelle derrière, si jamais.
C'est la première chose que maman et papa nous ont appris. Ouais. Même si elle est fraîche, elle est bonne.
Le premier jour où on s'est rencontrés physiquement, on s'est assis dans le taxi et on a fait 15 minutes et on était une famille, quoi. C'était presque, comment on dit en anglais, du plug and play. C'était merveilleux, magnifique.
Vous veniez d'où?
De la Colombie.
Non, mais en taxi, quand on est venu chercher à la Fondation.
À la Fondation. J'étais là-bas et j'étais pas très très contente là-bas, mais maintenant je suis beaucoup plus content d'être ici.
Est-ce que vous étiez combien dans cette fondation?
On était tellement que j'ai pas pu tout le monde compter.
Et t'es restée combien de temps là-bas, Sarah?
Une année, je crois.
Donc ça veut dire qu'avant, pendant 6 ans, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai dû rester toute la journée dehors dans le monde.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Joker.
Ah oui. Alors, faut qu'on vous explique. On a convenu avec Sarah que si elle faisait le signe du OK qu'on utilise en plongée, c'était OK que papa ou maman puisse répondre à sa place. Et puis si elle nous faisait le signe du poing fermé ou du plus d'air en plongée, c'est la tête coupée, que là, on ne répondait pas. Et pour nous, c'est important de respecter ça, parce que c'est aussi respecter son histoire et la liberté qu'elle a de la raconter ou pas. Alors, tu fais le signe de OK, donc on peut dire ce qu'il y avait avant?
C'est maman qui raconte. Ça te va?
Bah, avant, elle était dans une autre famille où elle n'était pas très bien traitée. Et donc, elle a été retirée de sa famille et placée dans cette institution. Et c'est clair que nous, on est au courant d'une partie de son histoire, de ce que les instances officielles ont enquêté. Et puis, il y a une partie qui lui appartient et qu'elle nous livre petit à petit et quand c'est le bon moment pour elle.
Il y a beaucoup de choses, Sarah, encore, que t'as pas dit et que t'attends le bon moment pour dire.
Ouais.
Et tu te souviens, toi, Sarah, de ce qui était important pour toi de demander à tes nouveaux parents? Par Skype ou Zoom?
La couleur de la chambre.
C'était important pour toi que de savoir comment était ta chambre.
Ah oui, parce que je savais pas qu'est-ce que c'était une chambre. Mm-hmm.
Une chambre rien qu'à toi.
Rien qu'à toi.
Je voulais savoir comment était la maison, les chats étaient de quelle couleur, si elle savait qu'est-ce que c'était les doudous. Donc j'ai choisi cette famille-là parce qu'elle était plus grande, ça allait l'air d'être une famille avec laquelle on était plus gentil avec les autres. Et tout le monde s'aidait un peu. Voilà pourquoi je l'ai choisi.
Comment t'as su ça, qu'ils étaient plus gentils avec les autres, qu'ils s'aidaient?
En regardant leur sourire.
Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce rendez-vous à distance, quand elle vous a parlé pour la première fois?
Dès le premier rendez-vous, elle nous a appelé papa et maman. On nous avait tellement lavé le cerveau ici, dans les cours de préparation, pour nous dire qu'il fallait, surtout avec des enfants grands, il fallait pas s'attendre à ce qu'ils nous appellent papa et maman au début. Là, elle, premier instant, papa et maman. Et on trouvait dommage, parce que c'est comme s'ils préparaient à l'avance les parents, pas à travailler avec la résilience de l'enfant, mais au contraire à avoir peur que ça se passe mal.
Macarena Facio, on a entendu cette mère assez critique sur l'accompagnement des parents qui se préparent à l'adoption. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos ?
Alors, la première chose, c'est de dire que nous sommes très contents parce que c'est un exemple d'une famille où l'adoption s'est bien passée. Par rapport à la préparation, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être il y a une incompréhension parce qu'en fait, en tout cas à Genève, il y a même un module qui s'appelle « Développement de l'enfance et résilience ». Donc, la résilience, elle est bien sûr prise en compte. Donc, c'est clair qu'on ne peut pas parler des résiliences sans parler des traumatismes. Mais il faut dire que notre rôle est de faire la prévention, la préparation, démontrer que le chemin ne sera pas toujours facile pour que les parents qui ont besoin, qui ressentent les besoins après, soient capables de demander de l'aide. Il faut dire qu'il y a une méconnaissance au niveau grand public de l'adoption. Parfois, on s'est dit « tout va très bien se passer ». En fait, ça va être comme les stars, Angelina Jolie, je ne sais pas, ça va très bien se passer. Donc, on essaye aussi un peu de déconstruire cette idée reçue. Et c'est pourquoi, c'est vrai, on parle des possibles problèmes qui peuvent survenir.
Parce qu'il y a encore cette image de Madonna ou Angelina Jolie qui ont adopté sans aucun problème en Afrique.
Tout à fait. Ou que parfois l'amour peut aider à surmonter absolument tous les problèmes. Puis il faut dire que c'est pas le cas. Donc peut-être maintenant tout va bien, mais peut-être à l'adolescence, en fait, il y aura plus besoin d'aide. Peut-être un jour, ça sera la recherche d'origine. Donc, mais il y a cette idée que parce qu'on va adopter un enfant, tout va très bien se passer. Il suffit de l'aimer très fort et tout ira très bien.
Joëlle Schickel, en écoutant ce reportage de Jonas Paul, on a presque le sentiment que la petite fille a choisi, en quelque sorte, sa famille. Comment est-ce que ça se passe avec la Colombie ?
Alors, la Convention de la Haye donne un cadre assez strict hein, sur la manière dont la procédure se déroule. Nous, depuis la Suisse, on est bien sûr responsable pour la première partie qui touche les parents adoptifs, leur préparation. Donc, on vient d'en parler, hein, la difficulté de préparer des parents de manière individualisée pour un enfant qui a ses propres besoins, son histoire unique, mais qu'on ne connaît pas encore au moment où on les prépare. Et après, toute la partie de ce qu'on appelle le matching, l'apparentement, ça se fait en Colombie. Donc, c'est les autorités colombiennes qui, elles, connaissent l'enfant, ses besoins, qui vont regarder s'il y a une famille qui correspond à cet enfant en attente d'une adoption. Et c'est eux qui vont faire cette partie officielle, on va dire, qui doit être menée par des professionnels. Et surtout pour les enfants plus âgés, comme c'est le cas ici, l'importance de préparer ces enfants à la future adoption, au fait que voilà, il va y avoir une famille qui va débarquer, qui va pouvoir s'occuper d'eux, etc.
Combien de temps ça prend en moyenne pour adopter un enfant? Il y a combien de temps d'attente, combien d'années ?
Alors ça dépend. De nouveau, on ne peut pas donner de réponse parce que ça va dépendre du pays, mais surtout du profil des parents qui adoptent et du profil de l'enfant qu'ils sont prêts à adopter. Pour des enfants avec des besoins très spéciaux où la demande finalement est pas très élevée, ça peut se faire très rapidement. Alors que si on est ouvert à un enfant en bas âge, avec un bon statut de santé, là, ça peut facilement aller de 3 à 6 ans de temps d'attente.
Macarena Facio, quel est le profil des parents qui s'adressent à vous ?
Actuellement, les profils ont beaucoup évolué. C'est rare de trouver des couples où les deux personnes sont suisses. La plupart, nous sommes situés à Genève, il faut dire ça. Donc, en fait, la plupart des personnes qui viennent faire de la préparation à l'adoption, c'est des personnes qui travaillent dans les organisations internationales, qui par un parcours de vie professionnelle ont eu contact déjà sur place avec les enfants ou avec des enfants. Et puis, beaucoup de couples binationaux. Et puis, on a maintenant aussi des personnes célibataires, mais pour la plupart, en tout cas binationales ou pas suisses. Actuellement, nous avons aussi beaucoup moins de demandes. Il y a 5 ans encore, on avait environ entre 4 et 5 séances de préparation à l'adoption par année. Actuellement, nous sommes sur une séance de préparation. Il faut dire que c'est des séances en groupe, donc entre 4 et 6 projets. Ça veut dire qu'il y a moins de candidats.
Comment ça s'explique, ça, Joël Schickel, le fait qu'il y ait aujourd'hui beaucoup moins de candidats à l'adoption qu'auparavant ?
Je suppose qu'il y a moins de candidats parce qu'ils savent qu'il y a moins de possibilités, en fait. Ces 10 dernières années, on a eu une très forte baisse du nombre des adoptions internationales. Plutôt même ces 15 dernières années, et une forte baisse aussi des intermédiaires privés en matière d'adoption, qui sont accrédités, qui travaillent avec l'étranger, en grande partie due par le fait que des pays d'origine qui étaient importants pour la Suisse ont fermé leurs portes à l'adoption internationale.
Lesquels ?
Il y a eu l'Éthiopie, il y a eu le Maroc, il y a eu des pays qui... comme la Thaïlande ou Haïti, ont introduit des quotas, ce qui est une bonne chose. Hein. Mais c'est vrai que du coup, il y a moins de possibilités. Il y a aussi d'autres facteurs, bien sûr. Hein. Il y aura, de manière générale, quand on regarde la diminution globale, vu que c'est quelque chose qui affecte tout le monde, c'est pas uniquement une spécialité suisse, on va dire, cette baisse de l'adoption internationale. Si on regarde par exemple l'Europe ou l'Amérique latine, l'évolution des sociétés, de la position des femmes célibataires qui ont des enfants, le fait que les sociétés de par le monde permettent de plus en plus à des personnes qui autrefois n'avaient pas le choix, on va dire culturellement, socialement, que d'abandonner leur enfant, maintenant permettent à ces personnes de s'en occuper. L'adoption devient aussi mieux acceptée dans certaines partie du monde où autrefois c'était pas quelque chose qui se faisait, et maintenant on a encouragé ça pour que les enfants trouvent des solutions dans leur pays d'origine. Et ça, c'est en lien notamment avec la convention de La Haye qui promeut de manière centrale ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Donc vraiment l'idée, en fait, c'est qu'à terme il n'y ait plus d'adoption internationale, ou plus que dans des cas très spécifiques, et qu'on trouve des solutions d'accueil pour ces enfants dans leur propre pays. Et bien sûr, le troisième grand point, c'est les progrès de la médecine, clairement, qui font qu'il y a aussi moins de couples, que les couples ont peut-être plus d'alternatives ou plus d'options en termes de soutien, de procréation médicalement assistée, avant de devoir se tourner vers l'adoption.
Convention de La Haye que la Suisse a ratifiée en 2003. Globalement, qu'est-ce que ça a changé, cette convention ?
Alors, ce qu'elle a surtout permis, c'est en fait une coopération directe entre les autorités de deux pays tout au début de la procédure. C'est-à-dire que nous, comme je l'avais expliqué, on fait le début, donc on s'occupe du dossier des parents, on l'envoie, le pays d'origine va le vérifier, il va peut-être nous poser des questions, demander des compléments, refuser ce dossier. Et ensuite, quand eux se chargent de faire la proposition d'enfant, ça sera à notre tour de pouvoir vérifier que ça correspond bien. Et seulement une fois que les deux autorités des deux pays se sont mis d'accord que c'est la bonne solution pour cet enfant, la procédure pourra... Alors, avancez.
Récemment, on apprenait encore le scandale immense des enfants sri-lankais adoptés illégalement en Suisse. Est-ce que malgré tous les garde-fous aujourd'hui, on est sûr à 100% que les procédures se font correctement.
À 100%, effectivement, c'est jamais possible parce qu'à partir du moment où il y a potentiellement par derrière des actes illicites, et je dirais que la définition même de l'acte illicite, c'est qu'il est caché. Si on a des doutes, c'est souvent des pratiques qui se font en dehors ou en amont du circuit pour faire en sorte que des enfants se retrouvent dans le circuit de l'adoption alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et là, on a bien sûr les moyens de contrôler, on va dire à distance, mais on ne peut pas être sur place en train d'aller faire des enquêtes individuelles. Donc à un moment donné, soit on fait confiance au pays grâce aux informations qu'on a sur place de notre ambassade, d'organisations telles qu'UNICEF, etc. Et sinon, il faut agir rapidement pour stopper, comme ça a été le cas avec quelques pays ces dernières années.
Nous parlons de l'adoption internationale ce matin jusqu'à 10h dans les Échos de Vacarme. On se retrouve juste après l'audio. Tout est fragile.
Il n'y a pas de faux, c'est de vraies mamans. C'est notre maman et c'est normal. On a une maman du ventre et puis notre maman.
Ville des fêtes aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. Les spasmes de la nuit émeuvent quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux.
Giuro biedo, la mamma cal mangia di giuro biedo, a saltati, fa mañana, fa mañana.
Après minuit, à la peau comme des sucreries d'Orient, on fait danser contre leurs fesses des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Ce versant lunaire a mille instants de sucre, mille instants de sel. Passe le vent, passe l'imprudence, nos bouleversements.
Giuro biedo, la mamma cal mangia di giuro biedo, a saltati, fa mañana, fa mañana. Giuro biedo, giuro biedo, la fa, la mañana.
De la nuit émeuvent quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. Les humains passent dans les rues engourdies. Des arabesques au satin de la peur. À Madame Carnaval, à son instant de grâce.
Alors, je vous propose de faire un petit exercice. C'est vrai qu'en tant que parent adoptant, hein, c'est, ben voilà, il y a cette joie d'aller chercher cet enfant, etc. Mais il faut bien se rendre compte que cet enfant qui est en orphelinat, le moment où les parents adoptifs déboulent, pour lui, c'est un moment de stress énorme. parce que c'est le moment où on le prend de son milieu, dans lequel il a vécu parfois plusieurs années. Tout d'un coup, tout ça, ça disparaît. Et du coup, on vous propose un petit exercice. Vous êtes Julie ou Simon, vous avez 18 mois. Les travailleurs sociaux vous cherchent une famille adoptive en Suisse depuis 6 mois, sans succès. En revanche, une famille tanzanienne souhaite vous adopter. Vous prenez donc l'avion avec un accompagnant suisse et 20 heures plus tard, vous arrivez très fatigué à l'aéroport de Dar es Salaam en Tanzanie. Comment c'est pour vous ? Alors, je vous laisse travailler.
Qu'est-ce que vous écrivez ? Vous pouvez dire.
Alors, oui. Donc, la première question, c'est l'accompagnant vous présente votre nouveau papa et vos nouvelles mamans. Que pensez-vous d'eux ? Donc, la première chose, c'est qu'ils sont étranges, qu'ils sont différents de moi. Je ne les connais pas.
À l'aéroport, toute la tribu Maasai chante, danse et fait de la musique pour vous accueillir. Chaque personne de la tribu vient voir le petit Suisse. Ces personnes vous touchent, vous parlent, vous embrassent partout sur le visage. Comment vous sentez-vous ? Comment réagit votre corps ? Avez-vous envie de rire, de pleurer, de les frapper, de fuir, de vomir, de dormir ? Pas évident de se mettre dans la peau d'un bébé de 18 mois. Hein ?
Ouais, je pense que c'est important d'arriver à se mettre à sa place et puis de ne pas se laisser submerger par nos émotions de joie à nous. C'est de comprendre que lui, il ne vit pas ça. Et puis de faire en sorte de ne pas trop extérioriser nos émotions à nous, mais plutôt de nous adapter à ses besoins.
Le soir même, ils vous servent un plat typique tanzanien de l'anguma, une bouillie composée de haricots accompagnée d'une tasse de sang de vache bien chaude. Quelle est votre réaction ? C'est trash. Le lendemain matin, l'une de vos deux mamans jette votre t-shirt et vos autres vêtements. Elle vous habille avec une robe de laine nommée Rubella. Elle vous rase la tête et vous coiffe d'un joli bijou de tête comme vos nouveaux frères et sœurs. Êtes-vous reconnaissant ? Vous trouvez-vous beau ou belle ? Alors moi, j'imagine que, incommodé par ces nouveaux apparats, je les arrache. 20 ans plus tard, où êtes-vous ? Que faites-vous ? Qui êtes-vous ? Ben, je suis un berger Maasai. Je bois du sang de vache chaud. Et fait la transhumance entre la Tanzanie et le Kenya. Voilà. Voilà pour l'exercice.
Nous étions à Neuchâtel avec l'association Adoptons-nous qui accompagne les parents adoptants. C'était un reportage signé Jonas Paul. Macarena Facio, comment est-ce que l'accompagnement des parents a évolué avec les années ? Est-ce que l'exercice qu'on vient d'entendre, on le faisait faire par exemple il y a 10 ou 15 ans ?
Alors, peut-être il y a 15 ans, non, puisqu'en fait, la préparation, elle a évolué en même temps que le profil d'enfant. Donc, il y a 20 ans, on avait 20 enfants qui sont arrivés qui avaient moins de 5 ans. Aujourd'hui, enfin, en 2019, à Genève, il n'y a eu que 3 enfants qui sont arrivés qui avaient moins de 5 ans. Donc, ça veut dire que le profil d'enfant évolue, les enfants qui arrivent sont plus grands, d'où la nécessité, les besoins de faire une préparation telle qu'elle est proposée aussi à Neuchâtel par Adoptons-nous, où on parle plus des enfants qui sont plus âgés et de leurs besoins quand ils sont plus grands, quand ils parlent. C'est complètement différent des enfants, des nourrissons, des bébés qui pouvaient arriver auparavant.
Donc vous parlez du profil qui a changé des enfants, vous parlez d'enfants plus grands. Qu'est-ce qui a aussi changé dans le profil ? Il n'y a pas que ça, j'imagine, il n'y a pas que l'âge ?
Il n'y a pas que l'âge. Il y a... C'est-à-dire que les enfants qui sont proposés à l'adoption, parce que peut-être il y a des enfants qui sont bébés mais qui sont adoptés au pays d'origine, mais en tout cas les enfants qui sont adoptés à l'international, peut-être Joël pourra dire aussi, mais nous ce qu'on voit avec l'expérience c'est qu'il y a, moins d'attentes pour adopter des enfants à besoins spécifiques, qui ont maladie ou difficulté quelconque. Il y a plus des fratries aussi qui sont proposées et des enfants, l'âge des enfants, on trouvera plus des propositions d'enfants des 4 ans et plus en tout cas.
Je vais vous confirmer.
Tout à fait. C'est notamment, on voit avec l'Amérique latine, hein, dans les années 80, c'était un 90 même encore, on adoptait énormément d'enfants d'Amérique latine, de divers pays. Et maintenant, il y a très peu d'adoptions de ces pays-là parce qu'ils n'acceptent des demandes uniquement pour des enfants de plus de 7 ans ou des fratries ou des enfants avec des problèmes de santé relativement graves. Et du coup, il faut se trouver des parents qui sont à la fois ouverts mais aussi aptes à s'occuper de ces enfants avec des besoins très spécifiques. Et du coup, c'est vrai que voilà, ça change la réalité. Il y a très peu de pays en fait qui ont des besoins d'adoption pour des enfants en bas âge, en bonne santé, qu'ils n'arrivent pas à couvrir eux-mêmes.
On va parler dans un instant des pays avec lesquels traite la Suisse, mais j'aimerais qu'on revienne juste sur qu'on évoque un instant la question du prénom. Parce que c'est quelque chose qui a traversé les reportages de la semaine. Qu'est-ce que vous préconisez? Faut-il garder? Peut-on modifier le prénom de quelqu'un? Ça semble quand même quelque chose d'assez violent de changer un prénom quand l'enfant est assez grand.
Alors, je vais vous décevoir, parce que malheureusement, on ne peut pas trancher. En 2017, nous avions une collaboratrice qui s'appelle Sitara Chameau, qui a fait un ouvrage justement sur l'enjeu des prénoms dans l'adoption. Donc elle s'est penchée sous cette question, elle interviewait plusieurs personnes adoptées, elle s'est adressée aussi aux autorités cantonales du canton des Vaud pour poser la question, qu'est-ce qu'on pouvait préconiser, qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux candidats à l'adoption. Alors, il y a deux positions. Il y a la position qui dit on va changer les prénoms, question que l'enfant soit mieux intégré dans sa famille, question qu'il puisse créer des liens, mieux s'intégrer aussi à sa nouvelle vie. Et puis, il y a aussi la position qui dit on va pas changer son prénom puisqu'il faut qu'il garde son histoire, qu'il garde son lien avec son origine. Les deux positions sont défendables. Il faut dire que chaque adoption est différente. Ça va dépendre de l'âge. Il faut aussi respecter et tenir compte de qui a donné les prénoms à l'enfant. C'est-à-dire que si c'est la personne qui l'a trouvé à tout hasard abandonné devant la porte de l'hôpital, c'est pas la même chose qu'une mère qui a accouché qui lui a donné un prénom. Mm-hmm. Il faut respecter l'origine du prénom. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut garder une certaine souplesse, qu'il faut laisser que l'enfant s'approprie aussi de son prénom, qu'il puisse jouer, qu'il puisse évoluer, puisque peut-être quand il sera petit, ça lui posera pas de problème de répondre au prénom qu'ils vont lui donner ses parents en Suisse. Mais après, à l'adolescence, peut-être ça va changer. Peut-être quand il ira chercher ses origines, il décide d'utiliser... D'ailleurs, on l'entendait lors d'un des reportages, je crois la personne qui était allée chercher ses origines au Pérou, elle utilisait son deuxième prénom au Pérou.
C'était le reportage de jeudi.
Voilà, merci. Ce qui est important, c'est que l'enfant puisse s'approprier, jouer avec ses prénoms. Aussi, ce qui est important de dire, Joël pourra aussi à nouveau nous dire plus légalement comment ça se passe, mais il faut dire que parfois, même les prénoms dans le passeport, il y a un prénom, mais en fait, l'enfant à l'orphelinat ou à l'institution où il s'est trouvé, il était appelé autrement. Donc, la question du prénom n'est pas si simple. Il faut vraiment écouter l'enfant, écouter son histoire, écouter les personnes qui se sont occupées de lui, voir d'où vient ses prénoms. Bien sûr, il faut tenir compte des aspects comme l'âge de l'enfant. S'il a 2 ans, c'est pas la même chose comme si l'enfant il est déjà scolarisé. Effectivement, si c'est un prénom très, très difficile à prononcer, si c'est un prénom qui va lui amener des brimades à l'école, il faut tenir compte de ces faits aussi. Mais voilà, malheureusement, on ne peut pas trancher. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut garder une certaine souplesse dans cet aspect-là.
Alors c'est vrai que dans les dossiers qu'on reçoit hein, de propositions d'enfants, on voit certains qui ont où c'est vraiment écrit qu'ils ont un surnom qui leur est donné dans l'orphelinat. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec la Thaïlande notamment. Et apparemment, enfin finalement pour l'enfant, c'est surtout ce prénom, ce surnom, mais qui devient comme son prénom qui est utilisé le plus. Et en tout cas, il me semble que ces dernières années, on voit quand même une majorité de dossiers où les parents adoptifs gardent le prénom. En tout cas, à tout le moindre en tant que deuxième prénom, ce qui a été aussi dit dans un des reportages, ce qui est probablement, enfin, Personnellement, je pense que c'est le minimum pour pouvoir garder la trace en fait de l'enfant. Mais effectivement, il y a certains noms. Déjà, il faut se rappeler que le nom, il est écrit avec notre alphabet, mais quand on parle de la Thaïlande, en fait, à la base, le prénom, il est orthographié avec leur propre langue. Donc déjà là, il y aura de toute façon une adaptation, si on veut, du prénom.
Sans parler de la prononciation.
Sans parler de la prononciation, effectivement. Et de manière générale, légalement, il faut un juste motif pour changer un prénom, mais clairement des questions de prénoms qui sont très difficilement prononçables ici, qui ont peut-être une connotation parce qu'ils ressemblent à un mot de notre langue, alors que dans la langue d'origine, ça n'a rien à voir. Il faut aussi penser à ça.
Avec quel pays traite la Suisse? Est-ce qu'on peut adopter un enfant n'importe où?
Alors, il n'y a pas de limite ou de restriction dans la loi suisse par rapport aux pays desquels on peut adopter. Bien sûr que les autorités suisses soutiennent le fait de travailler principalement avec les pays qui ont ratifié de la Convention de la Haye. Entre-temps, il s'agit de plus de 100 pays. Il y a certains pays qui simplement n'acceptent pas de travailler avec la Suisse. Parce qu'il faut un intermédiaire ou parce que ils ont déjà assez de partenaires. Il y a des pays qui ne connaissent pas l'adoption. Donc voilà, il y a quand même certains pays qui n'entrent pas en ligne de compte. Il y a d'autres pays qui sont ouverts uniquement pour leurs propres ressortissants nationaux mais qui habitent à l'étranger. C'est le cas de la Roumanie. Donc des Roumains établis en Suisse peuvent adopter de Roumanie, mais pas des Suisses qui n'ont aucun lien avec la Roumanie. Donc il n'y a pas de limite, et c'est d'ailleurs une des choses qui a été notée dans le rapport du Conseil fédéral de décembre dernier, qui portait beaucoup sur le Sri Lanka, mais qui avait aussi une partie générale à la fin qui analysait le système actuel et qui estimait qu'il faudrait, pour augmenter la qualité des contacts, la qualité de la surveillance, des dossiers, etc., se limiter avec un nombre beaucoup plus restreint de pays, quitte à bien sûr prévoir un système d'exception, parce que quand on pense aux adoptions intrafamiliales, là, on sait pourquoi il y a certaines situations dans lesquelles il faut pouvoir être ouvert à d'autres pays, mais du coup, il faudrait prévoir un système spécifique pour ça.
On a entendu dans les reportages de la semaine la cinéaste Amandine Gay, qui est une cinéaste française, adoptée elle-même, qui remet beaucoup en question le système de l'adoption internationale. Elle dit que ça ne peut pas se résumer à un acte humanitaire, mais que ça s'inscrit bien dans un héritage colonial, avec des relations nord-sud qui sont selon elle très déséquilibrées. Est-ce qu'on envisage aujourd'hui l'adoption autrement? Est-ce que ce point de vue-là, cette parole des adoptés qui est en train de se libérer, dit-elle, et dont elle est l'une des représentantes très importantes aujourd'hui, est-ce que c'est pour vous un véritable changement de société, Macarena Facio?
Alors en tout cas, pour nous, oui, puisqu'on tient compte en fait de la parole des personnes adoptées. Nous, on essaye de porter ces témoignages autant que possible auprès des candidats à l'adoption. On comprend son point de vue. On comprend que la société aussi a évolué, puisqu'on est passé d'une action humanitaire à la protection de l'enfant, en fait, c'est ça. C'est un changement sociétal où on ne conçoit pas l'adoption de la même manière. Mais il est clair que leur parole est importante, en fait, de la porter auprès des candidats pour qu'ils soient conscients des éventualités, des choses qui peuvent arriver lors de l'adoption. En fait, même s'il y a tous les garde-feux possibles, toutes les protections possibles avant.
La Convention des droits de l'enfant de l'ONU, hein, elle date de 89. C'est pas si vieux que ça quand on y pense, qui vraiment a fait a ancré ce changement de paradigme de l'enfant objet de droit à l'enfant sujet de droit, qui doit pouvoir participer le plus possible dans toutes les mesures qui le touchent. Et ça inclut beaucoup de facettes, y compris voilà la perception de l'adoption comme étant une mesure de protection de l'enfant et pas une mesure pour une famille de régler sa succession parce qu'ils n'ont sinon pas obtenu d'enfant par d'autres voies. Et la suite logique, c'était avec la Convention de la Haye de 93 qui a suivi quelques années plus tard et qui a vraiment ancré ce principe de subsidiarité qui a été repris par la suite, où vraiment l'adoption, c'est une mesure parmi une grande palette, mais qui doit rester une mesure minimale, en tout cas quand il s'agit de l'adoption internationale. internationale. Mais c'est extrêmement complexe parce que dans l'idéal, il n'y aurait pas de besoin d'adoption internationale, sauf quand dans des cas bien sûr très précis. Mais que fait-on en attendant qu'un pays ait atteint le niveau de développement de ses infrastructures, notamment bêtement de son soutien, de son réseau et tissu social pour soutenir notamment ses familles, pour garder leurs enfants. Et là, on peut prendre une approche ou une autre. Hein. Toutes les opinions sont importantes et doivent être écoutées. Et ce qui est en tout cas extrêmement important, c'est vraiment de se poser cette question de manière consciente. C'est ce qu'on aussi dans ce qui a été mis dans le rapport du Conseil fédéral, c'est qu'il faut une vraie réflexion et décision sur la politique de l'adoption de la Suisse, s'il y en a une. Pour l'instant, simplement, on a le cadre légal, hein, et on suit ce cadre. On ne pousse pas l'adoption internationale en Suisse, mais en même temps, on ne la freine pas non plus. Et il faut se poser vraiment des questions. Est-ce qu'on continue à le faire? Et si oui, dans quelles conditions on est prêt à le faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter?
Troisième extrait de nos reportages. Voici le témoignage d'une femme adoptée d'origine roumaine.
Je sais que j'ai été abandonnée à la naissance. J'ai été placée directement en orphelinat à Bucarest. Et après, si vous voulez, j'ai un peu un espèce de parcours vite fait, un peu de la nourrice qui s'est un peu plus occupée de moi durant le temps que j'ai vécu là-bas, donc 2 ans et demi. On s'était noté que pendant les 6 premières semaines, la famille s'est renseignée un petit peu de comment j'allais apparemment avec l'orphelinat. Mais après ça, on est resté là. Pas eu de visite ou autre, et puis ça s'est vite tourné que désintérêt de la famille et puis placement pour une demande d'adoption du coup.
Et vous avez une idée pourquoi votre mère n'a pas pu ou pas voulu vous garder? Comment vous interprétez ça?
Elle m'a eu quand même tard, 45 ans, peut-être que c'était une grossesse non désirée, et après elle était quand même avec le papa, puis on sait que j'ai 4 frères et sœurs devant, donc je me dis, voilà, il y a quand même une ambiance familiale quand même qui a existé normalement dans cette famille. Et puis je me dis, mais voilà, je pense que j'étais vraiment l'enfant à ne pas naître. Peut-être c'est faux, hein, mais c'est un peu comment je l'interpréterais. C'est vrai que je suis la seule qui a été mise à l'adoption comparée aux autres. Je m'étais imaginé, je pense, un peu les pires scénarios, si on ose dire, que j'étais issue soit d'un incest, soit de plein de choses, pour essayer, je pense aussi, d'avoir un maximum de protection, que si on me dit non, la chute sont moins fatales, je pense. Après, il faut s'imaginer que c'est quand même une toute autre mentalité en Roumanie, où sous l'ère de Ceausescu et plus tard, où poser l'enfant à la nation, c'était bien. Pouvoir le mettre à l'orphelinat, au moins un dans la famille, c'était bien.
Est-ce que vous vous êtes dit, on m'a abandonné parce que je ne valais pas la peine?
Oui, je me suis dit ça surtout quand j'ai fait ces démarches de recherche d'origine. Pas la première fois. La première fois, je m'étais contactée tout bêtement à l'ambassade de Roumanie. Puis là, on m'avait mise en relation avec la NPD, sauf erreur, de Bucarest, qui est un peu l'état civil des naissances chez nous, en équivalent. Et puis après, il s'était passé un certain temps, 5 mois, sans nouvelles, sans rien. Puis là, cette dame était revenue vers moi, explicitant qu'ils avaient bien retrouvé les personnes citées, et puis que ma maman ne souhaitait pas me rencontrer pour le moment, et que mon papa était décédé suite à une maladie en 2010, et qu'après, si elle reviendrait sur sa décision, on reprendrait contact avec moi. C'était pas facile au début de l'intégrer, je me suis dit, waouh, c'est quand même un peu violent de le recevoir comme ça, mais dur, violent, franchement c'était dur. Mais je pense que ça peut être tout aussi choquant pour elle, qu'on vienne la contacter, qu'on lui redise, mais écoute, voilà, il y a 21 ans, ton enfant maintenant, il est toujours en vie, il vit à un certain endroit, il souhaite te retrouver. Je peux comprendre qu'elle ait dit non, là, en tout cas la première fois. C'est vrai qu'après, j'ai fait 8 mois où j'ai réitéré ma demande. Et puis là, c'était quand même un peu plus dur quand on m'a dit une deuxième fois non. Je me disais, oh, elle reste campée sur ses positions, d'accord. Puis vraiment, la troisième fois, là, oui, là, c'était un peu plus trash. Il fallait plus me parler de la Roumanie, plus me parler de tout ça. Où là, cette troisième demande, ça a été de nouveau un non. Et c'est vrai que quand j'ai reçu ce papier formel, là, je me suis dit, pas oui. Cette fois-ci, tu l'as, ta réponse. Je me suis un peu sentie comme une merde, si on ose dire. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai, je crois que tu vaux rien, ou tu vaux vraiment... tu vaux rien, c'est faux. Peut-être tu vaux rien à ses yeux.
Vous l'avez vécu comme un deuxième abandon?
Ouais, clairement. À la limite, qu'elle s'en fout. Et puis oui, cet abandon est là, et ce crash est là, ce traumatisme est là, et la rupture restera présente. C'est ce que je peux vous dire.
Macarena Facio, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on se tient auprès de personnes qui risquent de vivre un deuxième abandon lorsqu'elles sont à la recherche de leurs origines ?
Alors nous, on préconise un accompagnement depuis le début. Déjà quand la personne se pose les questions sur ses démarches, sur si elle va faire cette démarche ou pas, parce que parfois ça ne commence pas tout de suite. On estime que c'est nécessaire, c'est souhaitable de mettre en contexte l'histoire d'adoption. Et surtout, la personne, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va, si on ose dire, trouver de l'autre bout. Est-ce que la personne qui est la mère, dans quel contexte elle a abandonné cet enfant, dans quel contexte elle a confié cet enfant, et cette personne a tout à fait le droit aussi de refuser un contact. Cette personne a fait son histoire, a suivi son schéma, donc c'est une possibilité qui existe, et puis il faut être préparé à cette possibilité. Comment il faut être préparé aussi en possibilité des rencontres. Il faut dire que de nos jours, avec les tests d'ADN qui se font à gauche et à droite, les réseaux sociaux, les personnes entament les recherches sans se poser la question de qu'est-ce qui arrive à la fin de cette recherche, à quoi on aboutit. Donc, notre accompagnement consiste à recevoir ces personnes au sein de l'association, les accompagner, que ce soit par un psychologue ou une accompagnatrice en recherche d'origine. Et puis, au fil des consultations, pouvoir faire évoluer ces projets de recherche. Que c'est, au fond, c'est un projet, comme le projet d'adoption, mais dans l'autre sens.
On a entendu qu'en Roumanie, c'était bien vu de confier un enfant à l'adoption. Ça veut dire qu'il y a des cultures de l'adoption très différentes.
Totalement, ça va de culture où l'adoption n'existe pas, n'est ni juridiquement ni culturellement acceptée, vers d'autres où le statut de confier l'enfant à des organismes d'État, à des institutions, avait un tout autre signification, bien sûr liée à la réalité politique du pays, notamment à des questions de pauvreté, de culture, etc. Et c'est un vrai enjeu pour certains pays de ce qu'on appelle maintenant de procéder à la désinstitutionnalisation des enfants, donc de partir de cette idée que une institution est un bon endroit pour un enfant pour grandir.
Qui paye les démarches des gens qui recherchent leurs origines ?
C'est un vrai enjeu en ce moment. La question des frais des recherches des origines, on en est absolument conscient. Et c'est un thème qu'il faut discuter ouvertement pour voir quelles sont les solutions. Ça prend particulièrement de l'importance si, dans le cadre de la recherche d'origine, ou même en débutant la recherche d'origine, on sait ou on découvre que l'adoption a été entachée de pratiques illicites. Ça pose une question de responsabilité et surtout, ça aussi implique le fait de démarches encore plus longues et compliquées et potentiellement coûteuse. En même temps, il faut bien se rendre compte que la recherche des origines, surtout plus le dossier est ancien, donc plus en général les dossiers sont pauvres en informations, et plus il sera difficile aussi de trouver des informations sur place. Peut-être qu'il n'y a plus rien, que les autorités n'existent plus, ou que les archives ont été détruites, ou quoi que ce soit. Donc c'est un parcours difficile on n'est vraiment pas sûr. Est-ce qu'on va même pouvoir trouver quoi que ce soit.
Où en est le dossier sri-lankais en la matière ? On sait qu'il y a eu un trafic d'enfants dans les années 70, 80, même jusqu'aux années 90, d'environ 800 enfants, c'est bien ça ? Qui ont été placés de manière illégale dans les familles suisses, avec donc les autorités suisses ont fermé les yeux.
Le nombre, c'est alors environ 900 enfants qui ont été adoptés pendant cette période-là. Quels dossiers ont été touchés, dans quelle mesure, par quel type d'adoption, enfin d'acte illicite, ça, il faudrait aller vérifier chaque dossier. Le rapport montre vraiment qu'il y a une magnitude de pratiques en fait assez large. En tout cas, ce rapport il y a eu d'abord le rapport de la Haute École de Zurich, suivi du rapport du Conseil fédéral en décembre dernier, qui a vraiment ouvert les yeux aux autorités et au grand public, de manière générale. générale sur cette page de l'histoire et qui permet maintenant d'avoir des réflexions, des discussions en impliquant notamment les personnes adoptées sur comment réformer le système, comment mieux les soutenir, etc. Alors ça avance à petits pas, mais c'est difficile parce que voilà, c'est beaucoup de choses étaient cachées et donc redécouvrir 40 ans plus tard, en plus à l'étranger, quel était le vrai et le faux, c'est complexe.
Quels sont vos espoirs pour les années à venir?
Bon, pour les Sri Lankais, je pense qu'il y a, l'espoir. Déjà, la Confédération mène un travail important pour essayer de résoudre ces dossiers. Il y a l'association aussi Back to the Roots qui s'occupe d'essayer de trouver les mères et les enfants via des tests ADN pour retrouver les personnes. Pour les autres adoptions, si on ose dire, entachées des illégalités, je pense que ça dépendra malheureusement de chaque pays et puis de s'adopter, surtout. Parce que c'est eux qui font bouger les choses, en fait, en principe.
Et l'espoir, bien sûr, c'est aussi de... J'espère que c'est plus qu'un espoir, mais d'apprendre de ça pour réfléchir sur la manière dont on fait les adoptions aujourd'hui. Et c'est peut-être un des avantages, le fait que les autorités en Suisse qui s'occupent des recherches d'origine sont en général également celles qui traitent les procédures d'adoption de nos jours. Et elles nous indiquent à prendre énormément et regarder d'un nouveau regard en fait les documents qu'elles reçoivent, les informations sur l'enfant qui arrive, la préparation des parents, etc. Maintenant qu'on voit la réalité de l'autre bout de la lunette à travers le regard des personnes adoptées qui sont à la recherche de leurs origines.
Merci beaucoup Joël Chiquel et Macarena Facio d'être venus ce matin dans les Échos de Vacarme. Joël Chiquel, vous êtes chef de l'autorité centrale fédérale en matière d'adoption internationale au département fédéral de justice et police. Macarena Facio, vous êtes juriste et directrice d'Espace A. Bonne suite de dimanche à toutes les deux.
Color of green. Ground had a rose, then passed its knees. By the cracks of a skin, I climbed to the top. I climbed the tree to see. When the guys came around to blow me down, held on as tightly as you held on me, held on as tightly as you held on me. Thank you.
La voix de Patrick Watson, accompagnée par le Cinématique Orchestra, pour terminer cette émission. À signaler encore le film d'Amandine Gay, Une histoire à soi, dont on vous parlait mardi dans les reportages de Vacarme, sera montré fin novembre à Genève à l'occasion du mois des adoptés. Macarena Facio, c'est vous qui organisez l'événement. Vous n'avez pas encore de date, je crois, mais enfin, il faudra guetter les informations sur votre site internet, sur le site d'Espace A. Merci à celles et ceux qui ont rendu possible cette émission. Jonas Paul, Jean-Daniel Mottet, Stéphanie Coudray, Anouk Verly, Stéphanie Jovanovic et Didier Rossa.